Chapitre 90. 6 mois après la chute d'Ilium, le 9 AV. Daeman était responsable du raid sur Jérusalem. Celui-ci avait été planifié avec le plus grand soin. Une centaine d'humains à l'ancienne, pleinement fonctionnels, se faxèrent à la même seconde, arrivant sur les lieux 3 minutes avant les 4 frelons Moravec transportant 100 autres volontaires, originaires d'Ardis et des autres communautés. Cela faisait plusieurs mois que les Moravec leur avaient proposé une assistance militaire, mais Daeman s'était juré 1 an plus tôt de libérer les humains à l'ancienne prisonniers du rayon bleu de Jérusalem, tous les amis et parents juifs de sa vie, et il estimait que cet acte relevait de la seule responsabilité des humains. Toutefois, il avait accepté les tenues de combat, les répulseurs dorsaux, les impacto-armures et les armes énergétiques que les Moravec étaient disposés à leur prêter. Les 100 passagers humains des Frelons, dont les pilotes Moravec ne participeraient pas à l'opération, avaient pour rôle de transporter les armes trop lourdes pour être faxées. Daeman et ses coéquipiers, humains et Moravec, avaient mis plus de 3 semaines à vérifier les coordonnées GPS des rues, des avenues, des places et des carrefours de la vieille ville, obtenant une carte précise au centimètre près, grâce à laquelle ils avaient pu déterminer les points d'arrivée des 100 humains et les zones d'atterrissage des 4 frelons. Ils attendirent le mois d'août, le jour de la fête juive du Tisha B'Av. Daeman et ses volontaires se faxèrent 10 minutes après le coucher du soleil, moment où le rayon bleu était le plus brillant. Selon les drones de reconnaissance aérienne dépendant de la RENMAB, Jérusalem était un lieu unique sur Terre, en ce sens qu'on y trouvait à la fois des Voyniks et des Kalibani. Dans la vieille ville, où les humains allaient intervenir ce soir-là, les Voyniks occupaient les rues situées au nord et au nord-ouest de la colline du Temple, une zone correspondant aux anciens quartiers musulmans et chrétiens, et les Kalibani, les ruelles et les bâtiments situés au sud-ouest de la coupole du rocher et de la mosquée Al-Aqsa, soit les anciens quartiers juifs et arméniens. À en juger par les données visuelles et radars, plus de 20 000 créatures grouillaient dans Jérusalem, Kalibani et Voyniks confondus.
« Nous serons donc à 1 contre 100 », avait commenté Gréogie en haussant les épaules. « On a connu pire !»
À peine si leur arrivée fit frémir l'air vespéral. Daeman et son escadron apparurent sur l'esplanade du mur des lamentations. La lumière du jour permettait encore d'y voir un peu, mais Daeman sélectionna ses cibles au moyen du radar et de l'imagerie thermique. Il compta environ 500 Kalibani autour de lui, occupés à dormir ou à ne rien faire, sur le mur et sur les toits à l'ouest de l'esplanade. En moins de quelques secondes, les 10 autres chefs d'escadron l'avaient contacté par intercom pour lui confirmer leur arrivée.
« Feu à volonté !» ordonna-t-il.
Les armes énergétiques étaient programmées pour affecter les tissus vivants, des Voyniks comme des Kalibani, et épargner les édifices. Daeman s'en félicita en voyant les créatures soudain prises de panique fuir dans tous les sens et se faire pulvériser en milliers de débris sanguinolents. Il n'était pas question de détruire cette ville dans le but de la sauver. La vieille ville de Jérusalem se transforma en un maelstrom d'éclairs bleus, de hurlements reptiliens, de messages radio et d'explosions de chair. Daeman et son escadron avaient éliminé toutes les cibles à leur portée lorsque le chronomètre de sa visière lui signala que les frelons allaient atterrir. Activant son répulseur dorsal, il s'éleva jusqu'au niveau de la colline du temple, personne ne l'imita, le moment étant mal choisi pour saturer l'espace aérien, et supervisa le balai des 2 premiers appareils qui, en 30 secondes, avaient déchargé leurs passagers et leurs chargements. Ils laissèrent la place aux 2 autres frelons, et les hommes et les femmes en tenue de combat se furent bientôt déployés à l'abri des rochers, calant leurs armes lourdes sur des trépieds et des blocs répulseurs. Les 2 frelons s'en furent.
« Colline du Temple sécurisée !»
annonça Daeman aux autres chefs d'escadron.
« Vous pouvez passer à l'action. Restez à l'écart de notre feu, comme convenu. »«
Daeman ?»
appela Eliane, qui était postée au-dessus du Bab el-Nazir, dans l'ancien quartier musulman.
« Je vois une foule de Voyniks descendant de la Via Dolorosa, ainsi que des groupes de Kalibani convergeant sur vous depuis la rue David. »«
Merci, Eliane. Tire dès qu'ils seront à ta portée. »
L'artillerie lourde entrera en action dès que le fracas des armes l'empêcha d'achever sa phrase. Les humains postés le long du mur et sur les toits lâchaient rafale sur rafale, sur une marée de créatures grises et vertes. Ajoutés à l'éclat du rayon qui jaillissait à la verticale, les milliers d'éclairs bleus des armes énergétiques inondaient Jérusalem d'une lumière de fer à souder. Daïman constata non sans surprise que les filtres de ses lunettes venaient d'accommoder.
« À tous les escadrons, feu à volonté » lança-t-il. « Signalez toute pénétration dans votre secteur !»
Activant à nouveau son répulseur dorsal, il fila vers le nord-est, là où le bâtiment moderne d'où partait le rayon bleu se dressait derrière la coupole du rocher. Il remarqua avec détachement qu'il devait se concentrer pour lutter contre l'hyperventilation. Ils avaient répété cette opération à 500 reprises durant les deux derniers mois, manœuvrant dans une réplique de Jérusalem que les Moravec avaient construite non loin d'Ardis. Mais rien n'aurait pu préparer Daïman à une bataille aussi acharnée, avec des armes comme celle-ci, dans une cité comme celle-ci. Anna et son escadron l'attendaient lorsqu'il se posa devant la porte scellée du bâtiment. Après avoir salué d'un signe de tête Laman, Kaman et Gréogi, que baignait une douce lueur crépusculaire, il lança « On y va ». Laman, que sa main mutilée ne gênait en aucune manière, plaça la charge de plastique. Les 12 humains se plaquèrent contre la façade latérale du bâtiment et la porte explosa. L'antichambre était à peine plus grande que jadis la chambre mansardée de Daïman, et le panneau de contrôle, grâce soit rendu à Dieu, s'il existait, était quasiment identique au modèle qu'ils avaient élaboré à partir des données partagées provenant du cabinet de cristal. Anna se mit à l'œuvre, pianotant avec habileté sur le clavier virtuel, composant les codes à 7 chiffres chaque fois que le demandait l'IA primitive qui gérait le bâtiment. Soudain, un bourdonnement sourd, en grande partie subsonique, leur fit vibrer les dents puis tout le squelette. Tous les voyants passèrent au vert, puis s'éteignirent.
« Tout le monde dehors !» ordonna Daïman.
Il fut le dernier à sortir, et l'instant d'après, le bâtiment tout entier, l'antichambre, puis la façade métallique et enfin l'intérieur dans sa totalité, se replia sur lui-même à deux reprises, se réduisant à un rectangle noir. Daïman, Anna et leurs camarades avaient reculé sur les pierres de la colline du temple, et ils virent le rayon bleu s'effondrer, entendirent le bourdonnement s'intensifier, grimaçant de douleur, Daïman serra les poings, sentant la vibration subsonique lui secouer jusqu'aux tripes et aux testicules. Puis le bruit cessa net. Il ôta sa cagoule, laissant en place écouteurs et microphones, et dit à Anna
« Forme le périmètre défensif. Appelle les frelons dès que le premier sera sorti. »
Elle opina et rejoignit les artilleurs qui arrosaient les environs immédiats de la colline du temple. Lors d'une séance préparatoire à cette opération, quelqu'un, Ada peut-être, leur avait suggéré malicieusement de mémoriser les noms et les visages des 9113 hommes et femmes capturés par le rayon bleu 1400 ans plus tôt. Tout le monde avait ri, mais Daïman savait que cette idée était techniquement réalisable. Le cabinet de cristal du Taj Mahal lui avait fourni une bonne partie des données nécessaires. Durant les 5 mois qui s'étaient écoulés depuis, Daïman avait étudié ces noms et ces images. Il ne les avait pas tous mémorisés, comme tous les survivants, il avait beaucoup trop à faire, mais ce fut avec un sentiment de familiarité qu'il reconnut le premier homme et la première femme à émerger du rectangle noir, donnant sur le réassembleur neutrino-tachyonique.
« Petra, dit-il, Pinchas, soyez les bienvenus. »
Il les agrippa tous deux avant qu'ils ne s'effondrent. Toutes les personnes franchissant la porte noire, deux par deux, comme les animaux de l'Arche de Noé, partageaient leur expression déconcertée. La femme brune nommée Petra, une amie de sa vie, Daïman le savait, parcourut les lieux d'un œil étonné et demanda
« Combien de temps ?»«
Trop longtemps, » répondit Daïman. « Par ici. Veuillez monter dans cet appareil. »
Le premier frelon venait de se poser, avec à son bord 30 humains à l'ancienne chargés d'encadrer et d'accompagner la foule de revenants. Sous les yeux de Daïman, Steph guida Petra et Pinchas sur les antiques pavés, puis sur la rampe du frelon. Daïman accueillit par leur nom tous ceux qui sortirent de la porte noire, dont les visages lui étaient souvent connus. Il y avait là Graf et sa compagne, qui s'appelait aussi Anna, Stephen, un autre ami de sa vie, et Ab, Kil, Sarah, Caleb, William. Daïman les salua tous et les dirigea vers ceux qui devaient les conduire au frelon. Les Voynix et les Calibani attaquaient sans relâche. Les humains les tuaient par centaines. Pendant les répétitions, il leur avait fallu plus de 45 minutes, dans le meilleur des cas, pour procéder à l'embarquement de 9113 personnes, même si la Noria n'était interrompue que par des pauses de quelques secondes, mais ce soir-là, sous le feu, ils ne mirent que 33 minutes.
« Très bien, » dit Daïman sur l'ensemble des canaux.
Évacuation de la colline du temple. Les artilleurs chargèrent leurs armes lourdes sur les deux frelons qui s'immobilisèrent devant eux, puis les appareils filèrent, rejoignant les unités qui s'envolaient vers l'ouest, et il ne resta plus sur les lieux que Daeman et son escadron.
3 ou 4 000 Voynix frais en provenance de l'église du Saint-Sépulcre, rapporta Elian.
Daeman remit sa cagoule et se mordit les lèvres. Privés d'artillerie lourde, ils auraient du mal à les neutraliser.
« Très bien !» dit-il sur le canal principal. « Ici, Daeman. Dispersion générale. Que chaque chef me confirme que son escadron s'est bien faxé. »
Gréogy rapporta que son escadron était parti. Edid en fit autant, puis disparut de la rue Bab al-Adid. Bowman confirma que son escadron avait évacué la rue Bab al-Gawanima, puis s'en fut. Loès envoya son rapport depuis la porte des lions, puis se faxa. Ella envoya son rapport depuis la porte dorée, puis en fit autant. Kaman lança un mission accomplie des plus vibrants. Daeman estimait qu'il en faisait un peu trop dans le registre martial, puis, un peu à contre-cœur, demanda la permission de se faxer.
« Fous le camp !» lui cracha Daeman.
Ce fut ensuite au tour d'Oko de faire son rapport et de partir. Cole en fit autant, disparaissant des environs de la mosquée Al-Aqsa. Finalement, Elian fit son rapport, puis se faxa à son tour. Daeman rassembla les membres de son escadron, auxquels s'était joint Anna, et les regarda disparaître l'un après l'autre tandis que la nuit tombait sur l'esplanade du mur des Lamentations. Il savait pertinemment que tout le monde était parti, que le rayon était vidé. Mais il devait s'en assurer. Pianotant sur le boîtier de contrôle de son répulseur dorsal, il s'envola, tourna autour du rectangle noir, jetant un bref coup d'œil au néant sur lequel il s'ouvrait, fit le tour de la coupole du rocher et de l'esplanade, aussi vides l'une que l'autre, puis entama un large mouvement tournant à basse altitude, visitant les 4 quartiers de la vieille ville, afin de passer en revue les postes assignés à ses escadrons qui avaient affronté Voynix et Calibani sans déplorer la moindre perte. Il aurait dû partir, il le savait. Voynix et Calibani se ruaient dans les antiques venelles, telle une déferlante menaçant d'engloutir la cité, mais il savait aussi pourquoi il n'en faisait rien. Le projectile faillit le décapiter. Ce fut le détecteur radar de sa tenue de combat qui le sauva. Il capta le rocher qui volait, invisible dans l'obscurité, et outrepassant les contrôles du répulseur dorsal, fit effectuer une subite roulade arrière à Daeman, qui se redressa quelques mètres au-dessus du pavé de la colline du temple. Il se posa en douceur, activant son impacto-armure et levant son fusil énergétique. Tous ses capteurs et tous ses sens lui affirmaient que la silhouette inhumaine découpée sur le seuil de la coupole du rocher n'était pas un vulgaire Calibani.
« Daeman !» gémit la créature.
Daeman se rapprocha, le fusil levé, sourd au système de visée de sa tenue qui lui ordonnait de tirer, s'efforçant de maîtriser son cœur et son esprit qui menaçaient tous les deux de s'emballer.
« Daeman !»
soupira le gigantesque amphibien sur le seuil.
« Pense-t-il, quand bien même il aurait échoué dans sa conception, suppose que ce Caliban est peiné et soit dolent. Souhaiterais-tu le voir souffrir ?»« Je souhaiterais le voir mourir !»
hurla Daeman. Son corps trépidait d'une ancienne rage. Il entendait le cliquetis étouffé qui montait des milliers de Voynix et de Calibani massés en contrebas.
« Viens te battre, Caliban !»
L'ombre s'esclaffa.
« Pense-t-il ? L'humain espère que tantôt le mal se doit soigner. Que firont que les plaies se doivent guérir dans la fange, si fait ? Viens m'affronter, Caliban !» Qu'en soit-il ? Posera-t-il son arquebuse pour affronter son acolyte à main nue, à griffe nue ?
Daeman hésita. Le combat serait tout sauf équitable, il le savait. Dans 10 secondes, un millier de Voynix et de Calibani allaient lui tomber dessus. Il les entendait déjà claquer, cliqueter, crépiter sur l'esplanade du mur des Lamentations et sur les escaliers qui menaient à la coupole du rocher. Il leva son fusil, le cala sur automatique, et le système lui annonça que la cible était verrouillée.
« Pense-t-il, Daeman ne tirera point, non !»
gémit Caliban parmi les ombres.
Il aime trop ses ennemis. Caliban et son seigneur Sétébos, il les aime trop pour tirer. Tirer ainsi le rideau sur leur monde si fait. Non, Taïman doit attendre un autre jour, que le vent bouscule les colonnes de poussière, que se meuve la maison de la mort et...
Taïman tira, et tira encore. Devant lui, les Voynix bondissaient sur les murs de la colline du temple. Derrière lui, les Calibani gravissaient les escaliers de la colline du temple. Il faisait nuit noire sur Jérusalem, et l'éclat du rayon bleu, qui avait baigné la ville pendant 1421 ans, avait disparu. Une nouvelle fois, la ville appartenait aux monstres et à eux seuls. Daïman n'avait pas besoin de consulter les écrans thermiques du fusil pour savoir qu'il avait raté son coup, que Caliban s'était téléporté ailleurs. Il devrait à nouveau affronter la créature, quelque autre jour ou quelque autre nuit, dans des conditions bien moins favorables qu'aujourd'hui. Tout au fond de son cœur, aussi étrange que cela paraisse, cette idée le ravissait. Voynix et Calibani se ruèrent sur lui, filant au-dessus des antiques pavés de la colline du temple. Daïman se faxa à Ardis une seconde avant que leurs griffes aient pu le toucher.